Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Benoît Brouwer, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes pharmacien à la base et vous avez créé avec, vous avez cofondé avec Pierre Nectou en 2017 la société WeFight. Et quel succès à présent, tout le monde le sait, le constate. WeFight donc fait partie des entreprises de la santé connectée.
C'est ça. En fait, avec avec Pierre, en fait, on a développé un écosystème de solutions, donc qui s'appelle VIC, V-I-K. Mmh. Donc VIC, en fait, c'est disponible sur les stores d'applications, mais pas que, sur du Messenger, sur du WhatsApp. Ce qu'on voulait, c'était toucher la population la plus large possible.
Alors, en particulier, la population qui est atteinte de maladies chroniques.
De patients atteints de cancer et de maladies chroniques. L'objectif, en fait, moi j'ai toujours été passionné par la santé et par le numérique. Et dans la santé, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est la partie éducation thérapeutique, donner les clés aux patients pour comprendre sa maladie.
Et donc ça tombe bien, puisque les maladies chroniques sont en... une explosion c'est avec ça. L'augmentation de l'espérance de vie. Donc, tout ça, ça va s'accroître, hein, le besoin pour les patients chroniques d'être suivis. Il y a combien de maladies chroniques, surtout que vous traitez
Nous, aujourd'hui, on traite une quinzaine de pathologies. Et dans les maladies chroniques, on va avoir la migraine, l'asthme, la dépression, la dermatite atopique, la BPCO également.
Oui. Voilà. Plus le cancer.
Et le cancer, donc onco et hématologie, ça va du cancer du sein, cancer de la prostate, mais également myélome multiple, par exemple.
On sait combien il y a de maladies chroniques en France à peu près, ou de cancers?
Alors il y en a une trentaine de grandes pathologies, maladies chroniques et cancers.
Et de patients atteints de maladies chroniques?
Plusieurs millions, je l'ai en tête, une vingtaine de millions, et ça en croissance.
D'accord, et cancer à peu près entre 3 et 4 millions, je crois.
Alors oui, je n'ai pas le chiffre.
À peu près, oui. Alors votre constat, c'est qu'après le diagnostic, c'est le flou artistique. Quant au suivi du patient, vous appelez ça l'errance thérapeutique?
Exactement, oui. En fait, dans les pathologies chroniques, on va avoir une phase d'errance, notamment dans les soins primaires, une fois qu'on a vu son médecin généraliste.
Une fois que le diagnostic est fait?
Une fois que le diagnostic est posé par son médecin généraliste, on va avoir des patients qui vont être dans une phase d'errance. En fait, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément bénéficier du bon traitement et ils ne vont pas forcément être bien contrôlés. Si je prends l'exemple de l'asthme, par exemple, c'est un patient qui a l'habitude de son asthme et qui, du coup, ne se sent pas forcément malade. Et en fait, ce patient, il peut rester dans cette phase d'errance pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et en fait, le but de WeFight et de VIC...
Mais est-ce une errance volontaire et involontaire? Et parfois, il a aussi peut-être du mal à... entre les consultations...
Errance volontaire, involontaire, consciente, inconsciente, liée aussi à des problématiques de parcours de soins également, qui est peut-être moins balisée dans les maladies chroniques que dans le cancer.
Et on est là... Et aggravée par la pénurie, en plus aussi, peut-être de médecins aussi. Aggravée par la pénurie de médecins.
Par la pénurie de médecins, par les déserts médicaux, voilà, on ne va pas avoir non plus accès de manière régulière à un professionnel de santé ou à un spécialiste.
Oui. Oui. Alors, donc, vous avez créé une série d'applications, vous avez dit, ça s'appelle VIC, oui. VIC, qui utilise l'intelligence artificielle. Comment ça marche, en fait?
En fait, VIC, c'est un outil très basique. Mm-hmm. L'idée avec Pierre, c'était qu'on ait un outil le plus simple possible pour toucher beaucoup de patients. On ne voulait pas s'adresser qu'aux patients tech addicts. Et en fait, VIC, il suffit d'interagir avec elle en posant une question. Vous posez une question à l'écrit, dans l'application, sur du Messenger, et VIC va vous répondre.
Donc il faut évidemment intégrer l'application.
Il faut l'application.
Télécharger, d'accord.
Ou alors vous pouvez aller sur Internet, directement sur un plugin, ou si vous utilisez l'application Messenger, pareil, vous discutez directement avec VIC, vous l'ajoutez comme un contact, en fait, et vous lui posez une question, et VIC vous répond. Et c'est là qu'il y a la partie intelligence, c'est dans la partie compréhension de la question de l'utilisateur. Et le but de VIC, ça va être de piocher la bonne réponse dans une base de données de réponses. Mmh. Et ces réponses, en fait, on les crée avec des professionnels de santé et des associations de patients. C'était vraiment important pour nous, avec VIC, d'être capable de partager à la fois du savoir de type médical, éducation thérapeutique, également du savoir patient, pour vraiment donner aux patients les clés pour comprendre sa maladie.
Pour qu'il devienne un petit peu plus, toujours plus acteur de sa santé.
C'est ça, toujours plus acteur de sa santé.
Voilà. Ouais, donc il y a des informations sur ses maladies, peut-être des conseils, évidemment.
Des informations sur sa maladie, sur son parcours de soins, les prochaines étapes, sur les traitements, quelles sont les opportunités thérapeutiques dont il peut bénéficier. Et également beaucoup de questions, de réponses à des questions environnementales, de qualité de vie. Bien souvent des questions que les patients n'osent pas poser à leurs praticiens par gêne, des fois. La peur de paraître peut-être un peu idiot. En fait, ils peuvent poser ces questions directement à VIC.
Tout en sachant qu'aucune question n'est...
C'est ça.
Et qui est intéressante.
Exactement.
Toujours bien de poser des questions. On le confirme en pratique tous les jours. Et vous avez évalué un petit peu le retour des patients?
Alors, on le fait à deux niveaux. Déjà en contactant régulièrement les patients qui utilisent Vic. Et en fait, ce qui ressort majoritairement, c'est le fait...
C'est par téléphone, c'est pas par chatbot ou...
Directement dans l'application, on va poser des questions. On pose des questions aux patients directement, on fait des focus group patients. Et vraiment, le gros point positif de Vic, ce qui ressort en tout cas, c'est le fait que c'est un robot, justement. Les patients apprécient d'échanger avec le robot parce qu'il n'y a pas de jugement, en fait. Et Vic donne une réponse, voilà, sans juger. Et juste la deuxième partie, en fait, qui nous permet d'évaluer aussi Vic, c'est des publications scientifiques. En fait, moi, je suis issu du monde hospitalier et on a à cœur vraiment à Wi-Fi de valider ce que l'on fait. Et donc, on fait des publications voilà, dans des revues avec comité de relecture. C'est vraiment les deux pans qui nous permettent de valider notre outil.
Donc, depuis 5 ans, donc, vous avez combien d'utilisateurs
Aujourd'hui, on est à peu près en France, à peu près 300 000.
Il n'y a pas que la France.
Il n'y a pas que la France.
Vous sévissez.
Oui, on est présent en Europe, Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Amérique latine. Mm-hmm. Et là, on vient de lancer le Middle East. Voilà. En langue arabe.
Ouais, c'est ça. C'est pas facile, j'imagine, de s'internationaliser, non?
C'est extrêmement compliqué. Et là, notamment pour le Middle East, bah voilà, il nous a fallu revoir complètement l'application. Voilà, les boutons sont inversés de par la langue, en fait. Ah oui. Et il faut s'adapter, voilà, au contexte local. Mmh. C'est vraiment, je pense, la force de Vic, c'est qu'on va avoir des personnes à Wi-Fi qui sont natifs du pays dans lequel on lance.
Bien sûr.
Ça nous permet de comprendre le parcours de soins et les problématiques locales du patient.
Les réglementations qui sont diverses et variées. Le siège est à Montpellier?
C'est ça. Siège à Montpellier qui produit R&D. On a des bureaux sur Paris, marketing, business, et on vient d'ouvrir notre bureau à Berlin.
D'accord. Combien de collaborateurs en tout?
À peu près 70 personnes, globalement.
Quand même. Et donc, vous levez des fonds régulièrement?
Oui, voilà, exactement.
Dont une levée récemment, je crois, non?
Alors, on a closé notre deuxième levée de fonds en septembre dernier, justement avec un fonds allemand et un fonds à impact aussi. Mm-hmm. Et là, on va préparer la prochaine pour continuer notre développement.
Et le futur, en quelques mots, de votre start-up?
Le futur, c'est vraiment...
Start-up bientôt?
Non, alors peut-être pas. Le futur, c'est vraiment focus sur l'errance thérapeutique. On passe de l'information maintenant à l'action. On veut donner aux patients les moyens d'agir et d'aller voir son professionnel de santé pour lui poser les bonnes questions et pour bénéficier du bon traitement. Ça, c'est vraiment notre focus.
Donc le professionnel de santé reste au centre quand même?
Toujours au centre, mais l'idée, c'est qu'il ait en face de lui un patient qui comprend sa maladie et qui sait de quoi il peut bénéficier.
Super. Merci beaucoup, Benoît Brouard. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. On va à présent accueillir Patrice Carayon, président de Chiesi France et de Tulip, et Sébastien Taimit, président de Ecovamed.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Patrice Carayon, bonjour.
Bonjour, Fabien.
Sébastien Taimit, bonjour.
Bonjour.
Alors, Patrice Carayon, qui est déjà venu, vous êtes déjà venu dans Check-up Santé, on est ravis de vous revoir. Vous êtes passé par ESCP Business School, vous avez fait l'INSEAD, vous avez un long parcours dans l'industrie pharma, 16 ans chez BMS quand même, ça ne s'oublie pas, et à présent président France du laboratoire italien Chiesi, chez qui vous sévissez déjà depuis 8 ans. Vous êtes aussi président de l'association Tulip, qui veut dire transfert d'urgence de l'industrie pharma. Chiesi, c'est le seul labo familial étranger en France?
Alors, c'est le seul qui soit présent sur toute la chaîne de valeur ajoutée. C'est-à-dire, on a de la R&D, on a de la production et on a de la commercialisation. D'accord. Effectivement, nous sommes les seuls à être dans cette situation. D'accord. Où tous les métiers sont présents en France.
Les Français, c'est Pierre Fabre, etc., c'est ça?
Exactement, exactement.
Alors, donc, vous dirigez la filiale France qui est à Bois-Colombes avec quelques centaines de collaborateurs. Vous sévissez dans quelle spécialité?
Alors, trois types de spécialités. Mm-hmm. Le domaine respiratoire, le domaine des médecines de spécialité et des médecines pour le consumer healthcare, et puis les maladies rares. C'est les trois domaines dans lesquels nous sommes actifs en France et dans le monde.
Alors, vous dites, parce qu'on s'est un petit peu appelé avant quand même, vous dites être le premier labo pharmaceutique société à mission.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, une société à mission? Alors, c'est quoi?
Une société à mission, c'est le fait d'avoir inscrit dans ses statuts des engagements, une mission et des engagements. Et les engagements, de les tenir dans le temps. En fait, c'est une qualité. Alors voilà, c'est les engagements qui doivent être sociétaux et environnementaux. En fait, c'est ce que donne la loi Pacte, la possibilité pour une SAS ou une SA d'avoir cette qualité-là. Donc on a la qualité de société à mission. Et pour l'instant, j'espère qu'on va être suivi, mais on est le seul adhérent du LEM, les entreprises du médicament, à être société à mission depuis un peu plus d'un an maintenant.
Et ça permet d'avoir... quelques facilités, quelque part, ou...
Ça permet surtout de pouvoir faire en sorte que les collaborateurs sachent où nous allons en termes sociétal et environnemental. Donc, on inscrit notre raison d'être et on espère que c'est une raison d'y être ou d'en être.
Alors, Sébastien Taïmide, vous êtes docteur en sciences, vous êtes ingénieur en chimie, passé par Chimie Paritech, et vous présidez Ecovamed. C'est vrai que le secteur de la santé, c'est un super contributeur aux émissions de gaz à effet de serre.
Oui, tout à fait. Il y a une étude récente du Shift Project qui indique que 8% des émissions de gaz à effet de serre en France sont issues du secteur de la santé. Et sur ces 8%, la moitié
du secteur
à peu
de
près,
la santé, donc, c'est-à-dire et industrie pharma et dispositifs médicaux,
tout compris. Donc la moitié de ces 8%, c'est justement les dispositifs médicaux et les médicaments, et l'autre moitié, c'est les hôpitaux, la médecine de ville, d'accord, tout le reste du secteur de la santé.
D'accord. Et donc c'est vraiment un important contributeur.
Oui. Donc c'est un très important contributeur, effectivement, parce que c'est beaucoup plus que le transport aérien. On parle beaucoup du transport aérien, mais très peu finalement du secteur de la santé. C'est assez proche du chauffage résidentiel. On parle beaucoup du chauffage résidentiel, mais très peu de la santé. Et donc ça implique que il faut effectivement trouver des moyens de réduire cette empreinte carbone du secteur de la santé. Et pour ça, on travaille sur différents axes.
Voilà. Donc votre job à vous, c'est évidemment d'y remédier en évaluant l'empreinte carbone des produits de santé, c'est bien ça?
C'est bien ça. Donc nous, on accompagne les fabricants de produits de santé, que ce soit des fabricants de médicaments ou de dispositifs médicaux, pour tout d'abord mesurer l'empreinte carbone de leurs produits, parce qu'avant de réduire, il faut savoir où on en est. Évidemment. Et une fois qu'on sait où on en est,
force de proposition.
On développe des plans d'action pour aller réduire année après année. Et dans un milieu qui est très réglementé, c'est pas forcément simple. Donc ça nécessite de beaucoup anticiper pour arriver à réduire.
Donc évidemment, donc vous travaillez, c'est pour ça aussi que vous avez accompagné Patrice Carillon, vous travaillez beaucoup avec l'industrie pharma.
Ouais. On a travaillé notamment sur les dispositifs d'inhalation de Chiesi et on a comparé différents dispositifs avec notamment un nouveau dispositif qui a été développé, qui va être produit en France d'ici quelques années. Et on a pu évaluer et mesurer que le nouveau dispositif d'inhalation avait 88% d'émissions de moins sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est-à-dire qu'on a regardé le dispositif de l'extraction des matières premières pour faire la boîte, l'inhalateur, les ingrédients, jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc on a comparé les dispositifs actuels avec des gaz propulseurs à ce nouveau dispositif avec un nouveau gaz, et donc on obtient 90% de moins. Alors juste pour donner un exemple, quelqu'un qui va en voiture tous les mois au travail, tous les jours au travail, et qui fait 7 km par jour, c'est l'équivalent généralement d'un traitement contre l'asthme. Et bien avec ce nouveau dispositif, c'est comme si on allait au travail 18 jours par mois en vélo et deux jours restants en voiture. Donc c'est pour montrer un peu l'importance.
Pas mal d'études aussi, vous avez fait des études intéressantes sur les gants nitriles.
On a étudié les gants nitriles parce qu'il y a actuellement une relocalisation de la production de ces gants en France. Donc on a voulu...
Le siège de la production l'empreinte carbone dépend aussi du siège de production, c'est bien
exactement
ça.
La localisation de la production, de par l'intensité carbone de l'énergie du pays, va beaucoup impacter l'empreinte du produit. Donc on a comparé les gants en Malaisie, en Chine et en France, sachant qu'aujourd'hui c'est essentiellement en Malaisie qu'ils sont fabriqués, mais bientôt il y en aura également en France. Et on a pu voir qu'il y avait une empreinte carbone 30-35% plus faible sur les gants fabriqués en France grâce à une énergie moins carbonée qu'on peut avoir.
Patrick Carillon, comment s'est faite cette collaboration avec Ecovamed?
Très naturellement, alors l'intermédiaire ça a été le Shift Project qui travaille beaucoup sur ces sujets-là, et on avait vraiment un sujet d'évaluation qui était ce spray que nous produisons à Blois, et de savoir concrètement quelle allait être la réduction. Et donc, on a fait appel aux experts, et comme Sébastien l'a dit, ça permet de réduire de 90%, donc c'est majeur.
Et vous comptez développer, Sébastien Taïmide, vous comptez développer donc un label d'origine européenne?
Oui, alors on avait même commencé par ça avant de mettre un pied dans l'empreinte carbone. L'idée, c'est d'objectiver un peu l'origine des produits de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de connaître l'origine de toutes les étapes de fabrication, parce que c'est des chaînes d'approvisionnement très complexes, avec beaucoup d'étapes, beaucoup d'usines. Et donc, on a développé un label avec les industriels, avec les autorités, avec les centrales d'achat, en discutant un peu avec toutes les parties prenantes, pour objectiver cette origine et lui adjoindre un indice de performance environnementale pour simplifier quelque part cette performance environnementale, parce que tout le monde n'a pas encore aujourd'hui des empreintes carbone. Il y a de plus en plus de laboratoires, il y a de plus en plus de fabricants d'EDM qui le font, mais tout le monde ne l'a pas. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà aller un peu plus vite avec ce label.
Patrice Carillon, chez Chiesi, dans le pipe, il y a des nouveautés?
Oui, essentiellement dans deux domaines, domaine des maladies rares, et puis un anticorps monoclonal dans l'asthme sévère.
D'accord. Belle entreprise, Chiesi.
Oui, belle entreprise familiale avec une famille qui est vraiment aux opérations.
Et qui est présente dans le monde entier.
Oui, dans le monde entier maintenant.
Alors pour finir, vous êtes évidemment le président depuis quelques années de l'association Tulip, transfert d'urgence de l'industrie pharmaceutique, dont on fête les 40 ans cette année.
Oui, c'est les 40 ans. Et donc, on va dire que c'est un anniversaire avec une actualité brûlante parce que jamais on a eu autant besoin de ces fameuses kits d'urgence, ces fameuses malles Tulip, ces cantines Tulip, parce que suite évidemment à la guerre en Ukraine, on a complètement changé d'échelle en termes de mobilisation. Pour donner un ordre d'idée, jusqu'à maintenant c'était autour de 50 tonnes par an pour faire face aux catastrophes. Et là, on va tripler probablement. On a déjà envoyé plus de 70 tonnes vers l'Ukraine et la Pologne. On travaille avec Première Urgence Internationale.
Les kits de survie, des antibiotiques.
Alors oui, mais il y a un kit d'urgence pour l'urgence, plus médecine de guerre, et puis il y a un kit qui est plus le kit de médecine générale pour les populations réfugiées, en particulier à la frontière polonaise. On a eu une très forte mobilisation du secteur avec beaucoup de dons financiers, de dons également en médicaments, et puis aussi de dons de compétences avec des femmes et des hommes de l'industrie pharmaceutique qui sont venus aider, faire des cantines, mais aussi donner de la compétence.
Ouais, et je donne les chiffres, hein, 55 entreprises de l'industrie pharma donc sont toutes les plus grosses. Vous travaillez avec 20 ONG dans 17 pays. Il y a aussi le Liban aussi.
Oui, le Liban a été d'ailleurs, merci Fabien, vous m'aviez invité suite à l'explosion du port. On avait parlé de la mobilisation qui avait déjà été très forte. Mais là, avec l'Ukraine, on est sur une autre échelle. Alors, il ne faut pas non plus que cette crise efface toutes les autres et ce que nous faisons encore au Liban, mais il est clair que là il y a un vrai changement d'échelle. Et j'en profite pour dire que désormais ça a été une demande des adhérents, et on peut recevoir des dons de personnes physiques et pas uniquement de personnes morales. Donc on donnera les coordonnées, mais l'association Tulip peut maintenant recevoir des dons pour pouvoir acheter des médicaments en plus de ceux que nous avons déjà.
Et d'ailleurs, merci pour le pins, Tulip.
Merci de le porter.
En 10 secondes, Sébastien, c'est quand même triste, quoi, quand même, que vous essayiez de diminuer l'empreinte carbone, et puis d'un autre côté, il y a une guerre où, avec des bombes et qui sont pour l'environnement une catastrophe, quoi.
Oui, mais faut pas. L'effort doit être continué, et c'est un effort de tous, des professionnels de soins, des industriels, et également des particuliers. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie.
Merci beaucoup, merci Patrice Carayon, merci Sébastien Taimit. Voilà, on va ensoleiller l'émission, avec modération, avec Pierre Cesarini, directeur de l'association Sécurité Solaire.
BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé.
Pierre Cesarini, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, vous êtes le directeur de l'association Sécurité Solaire, qui a été créée par votre père, on peut le dire.
Oui, Jean-Pierre.
Alors, le soleil, c'est comme l'alcool, c'est avec modération ?
Absolument. C'est tout à fait l'ambiance dans laquelle on veut se situer. On n'est pas des ayatollahs contre le soleil, on veut au contraire éduquer la population.
Ça change l'humeur quand même, le soleil, non ?
Oui, et puis le zéro UV n'est pas l'objectif. Hein. On a besoin de soleil pour notre morale, mais aussi d'ultraviolet pour rester en bonne santé, pour fabriquer de la vitamine D, absolument. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'éduquer la population à bien maîtriser ses expositions.
Alors, sauf que quand on exagère, quel est l'impact donc des rayons, des méchants?
Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde est sensibilisé, tout le monde le sait. Le problème, c'est le cancer de la peau, principalement, et dans sa forme la plus dangereuse, le mélanome,
qui est en grande
partie lié au soleil, et effectivement, qui est encore en grande croissance. Quand l'association s'est créée dans les années 90, on était à 7% d'augmentation annuelle, ça veut dire qu'on doublait le nombre de nouveaux cas tous les 10 à 12 ans. L'augmentation s'est ralentie aujourd'hui, mais on est encore à 4,5% de plus chaque année. On parle d'épidémie encore, hein.
Et c'est une cause importante de mortalité.
Très clairement, c'est même une cause de mortalité majeure. C'est peut-être la première cause de mortalité par cancer chez les jeunes adultes. Peu de gens connaissent ça aujourd'hui,
parce que les
expositions solaires de l'enfance fabriquent du mélanome très vite dans la vie, quoi. Et du coup, effectivement, on fait des mélanomes souvent à 20, 25, 30 ans. Et quand on fait un cancer à cet âge-là, la réplication cellulaire étant très très rapide, il y a des chances de survie qui sont amoindries largement.
Alors justement, quelle est la mission de votre association Sécurité Solaire ?
Très clairement, la prévention primaire. Nous, on agit sur l'éducation. On a trois axes de travail principaux. On est devenu un centre collaborateur de l'OMS en 96, qui nous a fixé une feuille de route et qui nous la refixe tous les quatre ans. Grosso modo, ça tourne autour des trois axes. Diffusion des indices d'UV dans les programmes météo, par les collectivités, notamment sur les lieux où les gens s'exposent.
Je sais que c'est vous qui avez insisté pour que sur les prévisions.
On a plus qu'insisté, puisqu'on a
les UV, l'indice UV.
On a fait plus qu'insister. On a créé le premier réseau de capteurs, le premier modèle de prévision. Aujourd'hui, on fait ça dans une coopération avec Météo France, mais oui, on fait le tour des médias chaque année. Oui, on fait le tour des offices du tourisme pour qu'ils affichent ça. Deuxième axe, les enfants. On a un gros programme avec l'éducation nationale.
Mais pour revenir aux UV, je vous arrête pour revenir aux UV. Donc, vous mettez l'indice UV tous les jours. Sauf que quand on regarde les prévisions, les indices UV, ils varient beaucoup ou pas ?
Ah ben, ça varie beaucoup selon la saison, selon la nébulosité, selon l'endroit où on est. Évidemment.
Selon les horaires ?
Bien sûr, les horaires. Alors, celui qu'on voit, c'est la prévision du maximum de la journée, donc entre midi et 16h. Donc, ça, c'est fixé.
Mais donc, c'est entre midi et 16h que
ça cogne le plus, très clairement. On peut donner une règle aux téléspectateurs, c'est la règle de l'ombre. Regardez, quand le soleil est haut dans le ciel, les ombres sont courtes, c'est là que c'est dangereux.
D'accord, plus l'ombre est petite, plus c'est dangereux.
Oui, absolument.
Donc, il vaut mieux jouer au tennis en fin d'après-midi.
Plutôt en fin d'après-midi ou très tôt le matin pour les matinaux.
Donc, c'est vrai, vous disiez, vous êtes associé à pas mal d'institutions.
Oui, tout à fait. On travaille avec le ministère de la Santé, évidemment, avec beaucoup de collectivités locales. Et puis, on a des soutiens d'ONG, comme les entreprises contre le cancer, hein, cette association qui fédère des entreprises qui, ensemble, se mobilisent pour faire de la recherche, pour financer les actions de prévention.
C'est comme un problème de sensibilisant, de communiquer.
On est très, très efficient, donc on est très, très économe. On a beaucoup d'argent public. Les ARS soutiennent le programme qu'on déploie dans les écoles. Ça coûte quand même des sous. Et on en a besoin, clairement.
Tant mieux. Alors, vous venez de sortir, ça c'est intéressant, vous venez de sortir une enquête avec IFOP sur la perception des effets néfastes du soleil.
Oui.
Les résultats sont bizarroïdes.
Oui, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'aujourd'hui, la population qui hier était la mieux sensibilisée, c'est-à-dire des jeunes adultes avec enfants au foyer, est aujourd'hui quasiment la moins bien informée des risques. Et cela s'explique parce qu'en plusieurs années, bien sûr, ça s'est pas passé du jour au lendemain, mais on a une population qui est moins sensible, qui est moins devant les bulletins météo dans lesquels on retrouve maintenant de façon très courante les indices d'UV. On
a aussi parce que les jeunes ne regardent plus la télé. Ni
oui, non, mais c'est ça. Effectivement, on le regarde moins, on regarde moins la radio. On n'est pas sur ces schémas où on avait 10 millions de personnes devant la météo des plages d'Evelyne Delia. On a également aussi une génération qui est plus dans une culture du loisir, de la contrainte zéro, de la non-recherche finalement. L'accès à l'information est moins là. On va chercher des informations qui nous intéressent. L'information sur les risques que font courir le soleil pour la santé, vous voyez, ça, c'est moins présent. Cela étant...
Peut-être que c'est une réaction en fait qu'on est... toujours plus encadré, toujours plus...
Mais oui, et puis ça vous a pas échappé. Là, depuis 3 ans, on a un peu martelé des messages de santé. On a peut-être un peu ras-le-bol d'avoir les contraintes, le port du masque, d'être confiné. Donc, on a probablement une réaction de ce type-là. Néanmoins, on n'a pas été agréablement surpris, je ne vais pas exagérer, mais je pense qu'on a limité les dégâts, notamment par les actions qui sont menées à l'école depuis longtemps. Et aujourd'hui, cette jeune génération qui arrive aux manettes, quoi, qui a 20, 30, 35, 40 ans, elle a reçu quand même beaucoup, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, des informations constructives en prévention à l'école. Ouais. Et probablement, ça a permis de limiter la casse. Parce que quand on voit aujourd'hui la façon dont se comportent les jeunes, on se dit, en termes de sensibilisation, c'est très compliqué à les toucher. Quoi.
Et il faut toujours le rappeler, c'est vraiment dans la petite enfance qu'on fait son capital.
Oui, pour ce qui concerne le mélanome, cette forme la plus tueuse de cancer cutané, c'est essentiellement les coups de soleil de l'enfance qui font le lit du mélanome à l'âge adulte.
Alors, il n'y a pas que les touristes qui sont au soleil, il y a aussi, ces travailleurs.
Oui, et là, c'est probablement une autre forme de cancer cutané qui est impliquée, c'est le carcinome. Là, on est en train de mener avec l'INSERM et le soutien du comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer une étude épidémiologique pour calculer les parts attribuables de risque de cancer de la peau, principalement de carcinome, ces cancers qui sont liés aux expositions chroniques, aux expositions répétées. Et là, ce sont les travailleurs qui sont victimes.
Il y a un pronostic moins sombre.
Il y a quand même 300 morts par an. Donc bien c'est sûr. Assez pareil. Et puis, on ne laisse pas traîner un carcinome. Il y a un coût financier pour la sécurité sociale qui est important.
Au moins, il n'y a pas de dissémination, il n'y a pas de métastase. Mais c'est souvent récidivant.
Oui, voilà. Oui. Et puis, voilà. Et puis, si on laisse faire, il va quand même y avoir des métastases. Donc on ne laisse pas faire. Et donc, on calcule ces parts avec l'INSERM. Et puis, ces parts attribuables à ces expositions professionnelles. Et deuxièmement, on cherche des moyens pour mener des actions de prévention pilotes pour pouvoir, d'ici 2-3 ans, donner aux parties prenantes l'état des lieux, précisément sur un plan épidémiologique très fondé, parce qu'on n'a pas la connaissance précise de ça. On a en Allemagne un pays qui a reconnu comme maladie professionnelle l'épidermoïde, deux formes de carcinome, mais sinon, on ne sait pas précisément ce qui se passe. Donc, on veut donner des éléments...
C'est principalement des ouvriers dans le bâtiment
C'est les agriculteurs, c'est les pêcheurs, c'est les MNS, c'est les gens qui travaillent en montagne, c'est beaucoup, beaucoup de gens, c'est tous les agents municipaux qui travaillent dehors, les jardiniers, etc. ça fait vraiment beaucoup de monde. Et je vous dis, on veut développer des actions ciblées sur chacune de ces catégories, de ces métiers, parce que c'est vraiment important d'adapter aujourd'hui. On en parlait un peu avec les jeunes, il faut cibler et être presque dans une communication one-to-one.
Oui, mais bravo pour votre combat et votre association. Merci, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avant la pause estivale.